ouvrières, techniques, douanières, au bout du compte, un marché trois fois grand comme celui du Japon.
Abattre les barrières, sans frontières, une Europe unie, tous ces mots sont vraiment merveilleux. Et je ne comprends pas pourquoi en 2005, les Français ont traîné les pieds, enfin ont même dit non, quoi.
Ah, moi je le sais parce que Serge Julie me l'a dit.
Ah.
Oui, ils sont racistes, frileux et feignants. Donc c'est la raison. Non, ce qui est très intéressant là dans cette histoire d'acte unique,
c'était le 20 novembre 1986.
Oui, c'est 20 novembre 1986. Ce qui est très intéressant, c'est que en deux coups déjà, on voit se dessiner l'une des tendances les plus profondes et les plus structurantes de la vie politique française, à savoir le grand accord, la grande convergence des partis gouvernementaux sur la question européenne. Alors là, c'est le truc qui va résister à absolument toutes les alternances et qui d'ailleurs, c'est parce que c'est une question tellement profonde et je le redis, tellement structurante, qu'elle va de fait rendre toutes ces alternances électorales absolument stériles puisque ce seront des alternances sans alternative. Alors voici la séquence. Le lancement du processus qui doit conduire au grand marché, c'est le sommet de Fontainebleau 1984, Mitterrand est aux manettes. L'acte unique qui en est le produit est signé en 1986 par Jacques Chirac. 1992, le traité de Maastricht est négocié et signé par Bérégovoy, Dumas, Mitterrand. 1993, c'est Édouard Balladur qui réalise l'indépendance de la Banque de France, qui est une condition sine qua non pour entrer dans l'euro. 1995, c'est Juppé qui est aux manettes pour piloter la première phase de la qualification pour l'euro. 1997, ce sont DSK et Jospin qui vont assurer la deuxième phase. 1998, ce sont Chirac et Jospin, main dans la main, qui signeront le passage effectif à l'euro. Donc là, il y a un trait qu'on peut faire passer entre tous ces points qui est d'une remarquable continuité. Et Nicolas Sarkozy qui cherche des tabous à détabouiser partout, il y en a un dont il ne s'occupe pas, en tout cas, c'est bien celui-ci.
La paix est extraordinaire ici, j'adore. N'importe qui peut y faire ce qu'il veut tant qu'il a les moyens de payer ses amis. Il leur faudrait ici, c'est une bonne vieille révolution, t'es pas d'accord?
C'était cette nuit dans le quartier latin, un jeune homme de 22 ans est violemment frappé par des policiers, membres de la brigade mobile. Il décède d'un arrêt cardiaque. Le jeune Malik Ousekine était dialysé.
Un exemple Malik Ousekine.
Un point semble pourtant clair. Il a bien été matraqué rue Monsieur le Prince alors qu'il tentait de se réfugier dans un immeuble poursuivi par les forces de l'ordre. Les policiers mis en cause font partie de ces brigades motorisées de la préfecture de police. Ce peloton voltigeur motocycliste était intervenu la nuit dernière au quartier latin à la suite d'incidents provoqués par des manifestants après l'évacuation de la Sorbonne par les forces de l'ordre. La mission de cette unité composée de volontaires est d'intervenir très vite et par surprise en impressionnant le plus possible l'adversaire pour le déstabiliser. Même si les coups ne sont pas officiellement la cause du décès de Malik Ousekine, un jeune homme de 22 ans est quand même mort ici dans des circonstances qui devront être éclaircies.
Alors ça, on est le 6 décembre 1986, c'est une archive d'Antenne 2, le décès de Malik Ousekine. Commentaire, François Cusset.
Double commentaire. D'abord, il y a le rappel qu'en 1986, à l'époque où on croit que tout est fini, la politique, le pouvoir, l'économie, la bonne vieille violence policière existe toujours. Ça fait quand même 6 mois que la droite est au pouvoir et que le duo Pasqua-Pandreau a effectivement rétabli quelques belles traditions, comme ces pelotons voltigeurs motocyclistes datant de l'époque de la guerre d'Algérie et qui sont effectivement diablement efficaces. Mais au-delà de la mort tragique de Malik Ousekine, c'est évidemment le mouvement d'opposition à la loi de Vaquet. Moi, ce que j'ai noté en relisant la presse de l'époque, c'est la myopie incroyable de tous les observateurs. Vieux 68-art, rassis et devenu éditorialiste centriste ou de droite, moquant ces jeunes qui ne veulent pas de la sélection, mais ne veulent qu'une chose dans la vie, c'est un travail, un emploi. Donc, c'est une espèce de fin de l'héroïsme.
Réplique. Alain Finkielkraut.
Pour moi, ce mouvement n'a pas été révolutionnaire, certes, mais il n'a pas été non plus moral, utopique, comme on l'a défini, ou il a été surtout, et je ne trouve pas de meilleur mot, cucu.
Vision totalement fausse, puisque le mouvement d'opposition à la loi de Vaquier était extrêmement divers, varié. Il n'y avait pas qu'Isabelle Thomas, cette égérie socialiste, effectivement, dont le PS fera son héroïne dans les années suivantes. Ça allait, effectivement, de trotskistes enragés et d'anarchistes énervés, jusqu'à des gens, eux, tout à fait favorables à la sélection dans l'université.